Cette petite musique que vous allez entendre puise ses notes dans l'intime de la vie. Les membres de l'atelier partage d'écriture du Secours populaire ont, entre automne et printemps, transcendé avec leur plume, avec leur âme, la banalité d'un quotidien d'une neutralité affligeante ou parsemée d'éclats de rire. Passagers clandestins, vous allez pouvoir participer au voyage le long d'un fleuve pas si tranquille que ça. La solidarité n'étant pas seulement affaire de ventre à remplir et de fin de mots à boucler, mais aussi partage de la liberté de créer, de la dignité d'être, écoutez la pluie du monde sans parapluie. Glissez-vous dans ces tribulations sans a priori. Seul un ciel un peu plus gris ou un peu moins bleu les sépare des vôtres.
C'est lundi, et je suis à la ramasse ce matin. Ah, pourtant tu n'as pas l'air d'aller si mal. Ah ben non, la ramasse, c'est quand on va pour le Secours populaire récupérer les dons alimentaires auprès des grandes surfaces du coin. Mais ça faisait du bien de la voir sourire après ces derniers mois douloureux qu'elle venait de traverser. Je la laissais dans la coloc, recroquevillée autour de son mug fumant, et descendais vers le cœur de la ville. Au local de l'association, les autres bénévoles sont arrivés bien avant moi, comme d'habitude. Il commence à faire froid, novembre assume sa réputation et le Vercors a le haut du crâne blanchi. On taquine Fatia pour le café qu'elle prépare, une vraie mère. Pour rire, elle se rend en frogne et coupe la pogne. On échange du banal qui réchauffe entre nous cinq. Puis avec Jeannot, je saute dans la camionnette direction l'enseigne au Grand L. Ou plutôt les coulisses, le dépôt et ses quais de déchargement. Haut de plafond et glacial, il abrite un balai de Fenwick Bêcheur et de Transpalette Lourdeau. Le chorégraphe en chef nous salue d'un « Messieurs » sonore avant de parler dans son talkie. Il appelle la sécurité qui viendra contrôler la sortie des marchandises. L'agent du jour est du genre tatillon et le nombre des barquettes de roquettes le plonge dans une perplexité soudaine. « Il n'y a pas le compte, il y en a trop !» nous lâche-t-il dans un souffle. Heureusement, il se reprend rapidement, mesure l'ampleur relative du séisme et d'un geste royal nous autorise à charger cartons et cagettes. La récolte est copieuse. Contrairement à ces dernières semaines où l'inflation contaminait le monde solidaire, le secteur, comme on dit. Des sourires éclairent les faces quand on revient au local. Chacun s'active à trier, ranger, jeter si besoin. L'humeur est au soulagement et les blagues fusent. La récolte est bonne. La distribution de demain après-midi s'annonce généreuse et ça, au Secours Pop, on aime bien. Mardi.
Au premier temps de la valse. Toute seule, tu souris déjà au premier.
Ce matin, j'ai ramasse. Encore, me dit-elle, c'est bénévole professionnel que tu fais ? Bah non, mais c'est qu'hier, les Restos du Cœur avaient passé leur tour et le Grand L nous en a fait profiter. Ils sont cool, au Grand L. C'est plutôt sympa de leur part. Oui, sympa et défiscalisé, comme dirait Benoît, le trésorier du comité local. Ah ! Et tu crois que je pourrais faire défiscaliser ma déprime ? Son sourire encore trop timide accompagne mon départ de la coloc et je dévale la pente mouillée qui mène au local où j'arriverai bon dernier une fois encore. Les mêmes seront là et la collecte sera encore fournie. Décidément, quelle semaine ! Une fois les aliments triés, rangés ou jetés, le café sifflé, la pogne engloutie, on fait un voyage à la déchetterie, Jeannot et moi, le trop d'emballage allant souvent de pair avec le produit invendu. Je le dépose ensuite sur le parking où il garde sa solitude, afin de me diriger vers le pavillon de Joséphine, nonagénaire de génie, au moins celui d'avoir nommé tourment le sentiment qui assombrissait mes jours quelques mois plus tôt. Depuis, c'est régulièrement que l'on se voit. Je peuple son isolement, elle recharge ma batterie. Cette fois, je la trouve oppressée, se noyant dans un verre d'eau, un océan. La box est en panne et son téléphone inutilisable. L'appel au serveur nous entraîne dans un voyage ubuesque qui fera étape au Maroc où l'on apprend que la panne se perd dans la nuit informatique. Joséphine aura beau supplier, au regard de son grand âge, le verdict tombe. Il lui faudra attendre l'intervention d'experts improbables dans un délai maximal de 7 jours afin que le problème trouve sa résolution. Finalement, une femme à l'accent étrangement asiatique la remercie du Maroc pour sa compréhension avant de lui caler un rendez-vous avec un technicien drômois dans 2 jours. Mercredi. Sur ma coloc, c'est pas simple. Avec Ricola le coloc, on ne s'entend plus. Lui me traite d'écolocumaniste, en tissant sa toxique affaire au cœur d'une colocation éphémère. Je me suis échoué là, il y a 7 mois, naufragé conjugal, tout frais. À 20 ans, cela peut être drôle, et déjà moins à 60 et quelques. Et cerise sur le gâteux, le logement est un ancien foyer de l'aide sociale à l'enfance, et pour l'éducateur de réforme que je suis, ça a de la gueule. Le premier élément de déco que je repère dans ma chambre de 11 mètres carrés est l'impact sur la porte, signe caractéristique d'une colère adolescente en foyer. L'expérience a fini par m'arracher à la déprime, à me sortir les doigts de l'emprise. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Rico se comporte avec moi de plus en plus en compagne perverse et je n'ai plus l'énergie de jouer le grand frère auprès des tout jeunes autres coloc-acteurs. Je fais donc de nouveau mon léger baluchon afin de revenir sur mes pas, mais je n'oublie pas l'imaginaire ami qui m'accompagna tout le long de l'aventure coloc-active. De retour au bercail, je suis emprunté. Les murs me font payer l'abandon et je frappe encore avant d'entrer chez moi. Ma première nuit sera timide. Du social, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt. Jeudi, c'est ramasse de champignons aujourd'hui. Enfin, le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Après 10 jours de pluie, la météo ouvre une fenêtre ensoleillée que je vais enjamber avec mon meilleur ami cologue. C'est un jeu de mots là avec les champignons. Il y a un bail de cela, tous les deux, on bataillait plutôt maladroitement sur des chantiers de plâtre et d'enduit. Il a continué, j'ai bifurqué. Il restaurait les maisons, moi les âmes blessées. On est devenu moins maladroit l'un et l'autre, et puis le système où je naviguais s'est détraqué. La gestion de l'institution est devenue indigestion et la philosophie finance a redistribué ses priorités. Aide à la personne, oui, mais plus à n'importe quel prix. Les nouveaux managements ne nous ont pas ménagés, on a été quelques-uns à résister. Et on a perdu. Les armes à la main, l'arme ravalée. La rupture fut conventionnelle. Drôle de convention. La dépression, elle, ne fut pas économique, mais massive. J'ai touché le fond, panne d'écran, 1 an. Qu'importe, aujourd'hui c'est trompette de la mort, et il y a foule, plein les paniers. Avec le copain, on n'a plus d'autre pression que la bière qu'on partage. C'est mon copinte. C'est un jeu de mots avec la bière. Vendredi.
Sur l'écran noir de ma nuit blanche.
C'est Armas. 2 jours les semaines paires. Mais qu'est-ce qu'on ramasse ? Au secours pop, aurait dit mon père. Lui était boxeur amateur dans les années 50, et il a souvent ramassé, disait-il. Mais ne s'est jamais couché. Sa fierté. Parallèlement, il s'intoxiquait dans l'usine Renault de l'île Seguin, et refusait de s'encarter au PC. Il ne serait pas la chèvre attachée au piquet de grève. Il n'a jamais mis les pieds dans une église non plus. Un croyant gueulard, mais se fera pote avec les 2 prêtres ouvriers de la banlieue où plus tard il installera sa famille. Finalement, bien qu'il soit parti depuis quelques années, c'est peut-être aujourd'hui que je mesure l'héritage. La chasuble est lourde. Erèche. Le propos rugueux. Là où je suis allergique à l'uniforme et souple dans le mot. Mais la morale est identique. On fait ce qu'on peut. Samedi, c'est collecte. Jacques a dit, les caddies en ordre de bataille, la chasuble immaculée, les flyers en escadrille. Allons, bénévoles tigeurs, la cause est bonne et les regards vous aiment. Au cou les écharpes, aux mains les mitaines, aux lèvres les slogans. À votre bon cœur, consommateur, une pensée, un geste, un rien. Mais la solide altérité fissure, trop de supplis qui irritent la peau du chagrin, trop de misère saoule à la fin, un vrai coup fin. Le courant d'air de la porte automatique recrache la mère et l'enfant, dont les yeux s'émerveillent, lui croyait voir le Père Noël. Dimanche.
Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui.
Là-haut, le givre s'accroche aux arbres et le bleu au ciel. L'eau bénéfique, me dit Michel, qui n'est pas le roi du calembour. C'est l'appel de l'aphorisme, la vie est belle. Chausse raclette et mentons à la cimentier. Je raccroche avant de changer d'avis, mais il me rappelle. Et n'oublie pas la testostérone dans ta gourde, la montée va piquer. Une fois dehors, c'est un autre. Il hume et scrute et se tait. Les rapaces, c'est son truc. Les vrais, les beaux, comme il dit. Dans ses jumelles, le vautour est fauve et le gypaète barbu. C'est un jeu de mots avec les oiseaux. Bon, il en rajoute un peu en montrant les muscles aujourd'hui. Parce que Laura nous accompagne. Il l'a dit. La vie est belle!
Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage.
Les passagers qui ont écouté le texte de Philippe et qui souhaitent continuer le voyage sont attendus en voiture 15 pour le texte de Marilou. Merci pour votre écoute.
Une histoire de livres et de pompiers. Un long couloir. Une petite fille de 2 ans joue. La porte est ouverte, le soleil brille, ses petites jambes l'emmènent jusqu'à la sortie. Elle va pouvoir descendre. Quel bonheur! Elle avance jusqu'au bout des escaliers. Oh! Son père la rattrape in extremis. Il a eu très peur. Sa fille aurait pu se retrouver sur la route. Qui a laissé cette porte ouverte? Certainement un des lecteurs de la bibliothèque. Cette situation ne doit pas se reproduire. L'appartement est le logement de fonction de la maman. C'est un bâtiment communal où la mairie a installé la bibliothèque dans une des pièces. Les adhérents vont et viennent sans trop s'inquiéter si la porte est ouverte ou fermée. Suite à cet incident, et à la demande des parents, la municipalité a accepté de déplacer la bibliothèque dans un autre lieu. Quelques années plus tard, on a démoli cette si jolie petite maison pour construire la caserne des pompiers. Un cube en béton, porte des garages en métal, armature en ferraille. Et en plus, elle est même pas rouge, cette caserne des pompiers. 2023, le cube de béton déménage dans un lieu plus stratégique. L'actuelle médiathèque manque d'espace. La municipalité décide alors de l'installer dans les locaux vacants de l'ancienne caserne, donc sur son ancien emplacement. Les peintres sont au travail. Sur les murs beige plisseux apparaissent des fleurs, des enfants, des livres, une plume tout en couleurs éclatantes, éblouissante. Si le balancier du temps continue son œuvre, on verra bientôt les pompiers assis près des livres.
Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît, les passagers qui embarquent pour écouter le texte de Daniel sont priés de se rendre porte 12, embarquement immédiat.
l'on constate que l'écologie Bontain est vite fatiguée. Les bienfaits de l'alternance des premiers de cordée et la jouissance dans la rupture des liens. La montée au refuge s'avère plutôt agréable. Le soleil a entamé sa descente, il ne fait pas trop chaud. La marche, petit à petit, détend mes muscles, décrispe mon cou. Je me sens bien. Alors, j'allume une petite cigarette. Et hop, A commence à me faire la leçon. A est une petite minette écologiste Bontain du CAF. Note de l'auteur, le CAF. Club alpin français. C'est ces mecs et ces nanas que vous croisez en montagne. Veste à carreaux qui savent tout sur l'équipement à avoir en montagne. Qui traîne dans la boue le mec qui se balade en chaussures de ville avec un parapluie sur un névé. Moi, je l'aime bien, le mec. C'est une tendance qui se répand. Pas trop concernée par la montée en puissance des multinationales, ni par les politiques antipopulaires de nos gouvernements, les écologistes Bontain se contentent de mépriser, discrètement, quoique profondément, ceux qui ne mangent pas du quinoa ou du soja, et encore plus ceux qui ne trient pas leurs ordures. Alors, les fumeurs et les buveurs de rouge. Du coup, j'enchaîne les cigarettes en doublant tout le groupe. Arrivé avant tout le monde, j'attends. Une clope au bec adossée à la pierre tendre du refuge. Profitant des derniers rayons du soleil. La porte au bois travaillé par la pluie et le soleil grince agréablement sur ses gonds et nous dévoile un dortoir d'une douzaine de places orientées un peu dans tous les sens. Nous réservons nos places en y posant notre duvet. Pour l'heure, c'est le moment de partager un repas aussi frugal que reconstituant. Les discussions s'enchaînent, se déchaînent calmement. Il n'est pas question de sortir de cette bienveillance hypocrite des écolos Bontain. Pourtant, A s'y met.
On devrait taxer les fumeurs pour financer la sécurité sociale.
Ça me plaît bien. Alors je réponds.
Et les psychorigides pour financer l'autopsie.
Tout à coup, l'ambiance se rafraîchit considérablement. Pour éviter une glaciation irrémédiable, nous décidons d'aller nous coucher. Mais A ne peut s'empêcher.
J'espère que personne ne ronfle.
Réveil quelques heures après. Tout le monde a très bien dormi, sauf A. Il paraît que j'ai ronflé comme un soudard toute la nuit, alors que je n'ai pas bu une goutte. Le rouge a tendance à me faire ronfler. Petit déjeuner copieux avant d'affronter la froideur de la nuit. Nos frontales éclairent quelques touffes d'herbe se raréfiant à mesure de notre marche ensommeillée. Illuminent de petits ruisselets. Les étoiles scintillent, toutes seules. Au lever du jour, la falaise se dresse devant nous. Il est temps de s'encorder deux par deux. A déclare forfait. Un soupçon de sentiment de culpabilité tente de m'étreindre. Un soupçon. Il est vite oublié, dès les premiers mètres d'ascension. Tiré sur les bras pour monter le pied de quelques centimètres. Poussé sur le pied et ainsi atteindre une autre prise pour la main. Se déporter d'un côté ou de l'autre pour asseoir un appui. Tirer, pousser, chercher le prochain décrochement de rocher. Plaisir d'être le premier de cordée, ouvrir la voie, mais plaisir aussi de suivre le collègue, d'être d'accord avec ses choix, d'approuver ses choix. La paroi s'incline sur la droite en donnant naissance à une vaste dalle lisse à 45 degrés, plongeant vers le sol quelques 1000 mètres plus bas. C'est sur sa crête montante que nous allons progresser. Le ciel bleu turquoise au-dessus de la tête, les vallées de chaque côté loin en dessous. L'œil a de quoi s'occuper et il ne s'en prive pas. Autant que le cerveau, que le ventre, je suis là. Je suis tout petit, mais je suis. Avec cette sensation d'être pleinement, nous atteignons le sommet. Nous y allons chacun notre tour. Il n'y a de la place que pour un seul. C'est assez étroit. Juste en dessous, nous pouvons attendre sur une petite plateforme où je m'en grille une après avoir été titillé le ciel. Nous amorçons la descente avec comme toujours ce sentiment d'insouciance qui nous fait oublier d'être prudent. Enfin, surtout moi. Après la désescalade dans la roche, acrobatique, mais c'est tellement jouissif d'utiliser ses jambes et ses bras sans se soucier de quoi que ce soit. Les muscles sont chauds, ils répondent à toutes les sollicitations. Le cerveau est ailleurs, je ne sais pas bien où. Nous sommes toujours encordés quand nous abordons le névé final. Nous savons bien qu'il faut rester encordé, mais c'est plus fort que moi. Enfin, je ne lutte pas beaucoup. Je me libère de la corde, malgré les remontrances de mes collègues, et je fais ma trace en parallèle de celle du groupe. Et je dévale comme un gamin, sauf que là, il ne faut pas tomber. La pente s'incurve. Les derniers mètres sont presque plats. Le soleil va se coucher, le parking apparaît. Ah, et son collègue nous attendent. Ce qu'elle lit sur nos visages lui a-t-elle fait prendre conscience qu'elle avait loupé quelque chose ? Devant sa tristesse, je me retiens d'aller lui offrir une cigarette.
Dernier appel pour le train spécial en direction de Versailles. Les passagers sont priés d'embarquer pour écouter le texte d'Anne. Une minute d'arrêt. Une minute d'arrêt.
Je vais te raconter l'histoire de grand-père, ton arrière-grand-père, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il s'appelait Jean Casimir, de nom Savin. Il était quelqu'un de calme et sympathique, paraissait bourru, mais était très gentil. Ses grands yeux bleus et ses mains de travailleur lui donnaient un charme fou. Et si, la semaine, il portait un bleu de travail et une casquette assortie, en fumant son tabac, le petit gris, le week-end, il mettait un costume en tergale avec un polo. Et seulement le dimanche, il fumait son paquet de gitanes, oui, mais des gitanes maïs filtre marron. Il était agriculteur, éleveur et mineur vers la Mure. En fait, dans un tout petit village, Mersavel, près du lac de Monténard, dans la Matésine, en Isère, tu vois. Père de 6 enfants, il habitait un grand corps de ferme, très bien rénové de nos jours. À leur époque, dans ce petit village, l'école apportait de quoi se nourrir la tête, l'épicier de quoi se nourrir le corps et le boulodrome occupait les hommes le dimanche. Il y avait une petite salle de bain où on pouvait se débarbouiller. Mais avant, les toilettes étaient dehors. Grand-père a tenu à faire installer de vrais WC à l'intérieur. Une salle à manger pour les 9 personnes vivant sous ce toit. Grand-père, grand-mère, les 6 enfants... et la sœur de grand-père, Tante Marie. Puis, plus tard, à mon époque, celle de ma sœur et de mes cousins-cousines, les 5 plus grands, 2 mecs et 3 nanas, il y avait la salle TV. On l'appelait la salle. On y jouait et mangeait ensemble, entre jeunes. Et en soirée, on regardait la télé. On accédait aux chambres par un escalier très pentu. Dans mes souvenirs, l'étage était immense. On se partageait les lits. Ah oui, je te disais donc que grand-père était agriculteur et dans ses terres, il y avait quelques vignes. C'était son patrimoine. Non, ce n'était pas du Saint-Joseph, mais du Baco. Et toute la famille se réunissait fièrement pour les vendanges. De vrais bons souvenirs. On ramassait le raisin avec des seaux et des sécateurs sur au moins 25 rangs de ce merveilleux cépage dont raffolait grand-père. Certains portaient les hottes pour les vider dans une grande cuve en bois. Le travail de la vigne nous enivrait et resserrait les liens de sang familiaux. C'était comme ça. C'était excitant. Les plus téméraires piétinaient le raisin dans la cuve. Mon grand-père allait de la maison familiale au sagne. C'était comme cela qu'il appelait son lopin de vigne. En tracteur rouge, un Massey Ferguson marque américaine. Il en était très fier, car avant d'avoir un tracteur, il utilisait des chevaux. Et nous, les cousins-cousines, il nous transportait dans sa grande remorque en bois. Et nous rigolions quand il klaxonnait. Il nous disait gentiment « Cachetez les mourliers, cachetez les mourliers, taisez-vous les grillons, en patois, taisez-vous les grillons !» qu'il eût dû dire des millions de fois à nos parents, oncles et tantes. C'était bon le vent dans mes cheveux, l'odeur de la campagne dans mes narines d'enfant. Nous, les enfants, nous jouions dans le terrain sablonneux, nos mains faisaient des trous, des pâtés. Puis, grand-père est décédé. Mon père, qui a hérité des sagnes, a essayé avec mon oncle de recultiver ses terres. Mais cela demandait trop de travail, en plus du leur et de leur vie de famille. Surtout que ni l'un ni l'autre n'habitait proche de la maison familiale. Alors, il a loué les terres pour mettre des vaches. Les sagnes sont devenues désolation. Les vaches ont tout nettoyé. Je t'en parle, car je m'y suis rendue à Toussaint dernière. Et tous mes souvenirs me sont remontés. Le terrain s'effondrait dans les gorges du Drac. Au fond, il y avait des ronces, des lianes de vignes qui s'emberlificotaient, et le maigre raisin survivant était rachitique. Abandon d'une mémoire. La prochaine fois que je monte à Mersavel, je chercherai des photos de famille pour retrouver les souvenirs de ces vendanges et bien sûr l'image de grand-père trônant sur son massé Ferguson.
Appel pour tous les passagers, appel pour tous les passagers pour le dernier embarquement. Munissez-vous de toute votre attention pour le texte de Cécile. Ce sera la dernière connexion. Bon voyage.
Aujourd'hui, il n'y a plus d'enfants. Les carrés de Troène sont vides, rachitiques, et sont devenus le territoire des chiens. Tout semble si triste et vide de sens.
Avant, on y jouait aux billes, à la tique ou au pot. Parfois, un gendarme et voleur s'organisaient, ou une partie de cache-cache. Autrefois, ici, dans ce petit immeuble du 10 rue des Petits Bois, à la limite de Versailles et Viroflay, près de la forêt de Fausse-Repose, cela grouillait de vie. Une bande d'enfants s'ébattait chaque soir après les devoirs et les mercredis. Derrière l'immeuble de 4 étages sans ascenseur, se trouvait un parking où Stéphane Lamotte, mon voisin et ami et moi, avions installé un filet de tennis. Aussi, toute la bande de copains, Philippe Vérité et son frère Stéphane, mes 3 frères, Philippe, Jérôme, Frédéric et moi, nous organisions des rencontres acharnées, surtout en période de Roland-Garros. Nous nous prenions pour des vrais champions. Et nos balles allaient parfois se perdre sur le toit des garages fermés situés en face de l'immeuble, sur lesquels nous montions pour aller les récupérer, malgré le danger et l'interdiction de nos parents. Près des garages se trouvait un grand mur où nous jouions à la paume. Parfois, nous grimpions dessus pour accéder à la grande maison attenante qui était abandonnée. Là se dressait un magnifique marronnier qui, en automne, nous procurait des munitions pour nos batailles acharnées. Aujourd'hui, cette maison est rénovée et le marronnier a subsisté malgré ses 20 dernières années passées. Quelquefois, les 3 filles Morel nous rejoignaient. Leur mère, du 3e étage, guettait. Elle ne souhaitait pas trop qu'elle se mélange à cette petite troupe trop pleine de vie et bruyante à son goût. La cour sans arbre était assez grande pour y jouer au ballon. Mais le mur situé à gauche de l'entrée n'était pas assez haut pour contenir nos ébats. Ainsi, il arrivait souvent que notre balle atterrit chez le voisin, pas très commode, qui avait un chien effrayant et laid. Nous faisions donc le mur, guettant si la bête féroce et son maître étaient là. Nombre de nos ballons furent ainsi perdus à notre grand regret pour la sécurité de nos mollets. Le souvenir le plus marquant se passa lors d'un lourd été. Lourd et torride, où, abattus par la chaleur, nous conversions assis contre le mur du voisin, tout en regardant le passage des fourmis. L'un de nous eut une idée incroyable. Et pourquoi ne pas faire comme les Indiens ? La torse de la pluie, nous improvisâmes un chant, des pas, puis pris par notre élan, nous nous mîmes à brailler à tue-tête. Soudain, des nuages sombres et menaçants arrivèrent, puis le vent se leva et quelques gouttes se mirent à tomber. Nous exultions et reprîmes de plus belle nos incantations. Lorsqu'un coup de tonnerre nous surprit et la pluie se mit à tomber lourdement. Nous étions trempés, à la fois heureux et inquiets. L'orage violent eut vite fait de nous éparpiller et nous rentrâmes chacun chez soi, conscients d'avoir vécu un moment extraordinaire. Le soir, du haut du premier étage, ma mère accrochait un chiffon de couleur pour éviter de crier par la fenêtre. C'était le signal de la fin de nos jeux. Il était l'heure de rentrer, de la soupe et du bain. Tout recommencerait le lendemain, à notre plus grande joie. Et cela semblait sans fin. Aujourd'hui, je regarde la façade de l'immeuble où j'ai vécu 14 ans. Il me semble si petit, avec ses 4 étages sans ascenseur et ses 12 ouvertures étriquées. Je suis venue avec mes 2 filles pour leur montrer les lieux de mon enfance après toutes les histoires que je leur avais racontées. Je décide d'entrer dans l'espoir de retrouver quelqu'un, quelque chose de mon passé. Nous franchissons les 3 marches en béton pour ouvrir la même porte vitrée en bois. Ce qui me surprend, c'est cette odeur de produits d'entretien. C'est la même qu'il y a 20 ans. Curieuse, je m'oriente vers les boîtes aux lettres. Et là, surprise, parmi tous ces noms inconnus, celui de Madame Lamotte, la mère de Stéphane. Je prends mon courage à 2 mains et je grimpe les 2 étages avec mes filles. Le même revêtement, les mêmes escaliers que nous nous amusions à sauter en tenant la rampe et en nous lançant des défis à celui qui franchirait le plus de marches. Je me décide à sonner et au bout d'un petit moment, la mère de Stéphane vient nous ouvrir. Je lui explique qui je suis. Elle est enchantée et nous fait entrer. Elle nous offre une orangeade. Elle n'a pas changé. Toujours élégante. Un carré soigné, ses talons compensés et les ongles vernis de la même couleur. Son chien, lui aussi, est semblable à l'ancien. Nous parlons de nos parcours de vie. Elle m'explique que dans l'immeuble, tous les jeunes sont partis et que son fils vit désormais au Canada où il est ingénieur et va se marier. Nous restons toutes deux nostalgiques un moment avant de nous quitter.